7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. L'école à la radio, tous les jours du lundi au vendredi, des enseignants se relaient pour vous permettre de garder le contact avec l'école, souvent suspendue depuis des mois. La Fleur est une petite fille de 6 ans à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Et elle nous dit que grâce à Adama Keïta, enseignant en Côte d'Ivoire, eh bien elle a compris les lettres B et D. Et que grâce à Marie-Christine Aubin, enseignante, elle a compris les adjectifs. Elle voudrait maintenant une leçon sur les lettres M et N. Parce qu'elle les confond. Eh bien, La Fleur, on a bien entendu ton message et ta demande. Bonjour Catherine Fournier.
Bonjour.
Vous êtes formatrice pour enseignants. Vous avez préparé pour les petits voisins et voisines, ceux qui apprennent à lire, et les parents aussi qui écoutent, une leçon sur les lettres que les enfants confondent, mélangent, lorsqu'ils apprennent à lire et à écrire d'ailleurs.
Oui, c'est des confusions qui sont assez fréquentes, hein, qui peuvent être de différentes natures. Il y a les confusions auditives, quand les sons des lettres sont proches, c'est peut-être le cas pour la fleur, me et ne, ou une confusion visuelle, car le nombre de jambages est proche aussi, 2 points pour le N, 3 pour le M. Et donc ces confusions peuvent entraîner des difficultés de transcription entre le phonème que l'on entend et le graphème que l'on va transcrire. L'enfant va écrire chenin, par exemple, au lieu de chemin. Mmh.
Alors, et il faut faire bien attention pour les parents de ne pas laisser s'installer ces confusions, non ?
Oui, il faut être vigilant. Donc si on voit que son enfant a des difficultés de ce type, il faut bien travailler la phonologie. Bon, après, si ça devient récurrent, systématique, si ça s'installe dans le temps après la première année d'apprentissage, là, il faut peut-être essayer de consulter un spécialiste ou quelqu'un faire des petits cours particuliers sur cette problématique.
On ne va pas se stresser aujourd'hui, on reprend calmement toutes les confusions qui sont possibles, ou presque, hein, et bien évidemment vous pourrez réagir en direct via notre messagerie Facebook. À la récréation, le roi qui n'aimait pas les vieux, une histoire racontée par Héloïse Auria, puisée parmi nos 55 contes qui sont désormais téléchargeables en podcast et à partager avec les enfants, 7 milliards de voisins, des contes à écouter, c'est ce qu'il faut taper sur les plateforme. En fin d'émission, Les petits-enfants des indépendances, une série proposée par Charlie Dupio. Des lycéens enquêtent, s'interrogent sur l'histoire de l'indépendance de leur pays. Un message tient d'ailleurs de Youssouf qui a beaucoup aimé l'histoire de l'indépendance de la Centrafrique racontée par Sabrina, c'était hier. L'histoire, nous dit Youssouf, se transmet souvent de bouche à oreille et on n'a pas toujours la chance, nous, d'avoir les histoires des pays africains parce qu'on ne peut pas tout apprendre à l'école et que nombre de sages aussi qui ont vécu les indépendances sont déjà morts. Voilà. Et aujourd'hui, Joshua, sachez Youssouf et tous les autres, Joshua va nous raconter l'indépendance de la République du Congo. Et puis, bien sûr, il y a l'équipe qui prépare, qui réalise cette émission chaque jour. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Nicolas Benita aux manettes aujourd'hui.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Bonjour Delphine, je m'appelle Moulana Kabongu, enseignante au groupe scolaire Bonsombi, dans la province Kassai Oriental, précisément en Mbujimayi. Suite aux leçons que les enfants sont en train de suivre à la radio RFI, nous organisons le groupe de 10-15 enfants en respectant les gestes barrières pour ce temps de coronavirus. Après chaque émission que vous lancez du lundi au vendredi, nous organisons les travaux en groupe et nous terminons avec un devoir à domicile que les enfants vont aller exécuter à la maison. Et les devoirs sera corrigé le matin du jour suivant avant d'écouter l'émission du jour. Merci, bonne soirée et à bientôt.
Très honoré en tout cas, Moulanga, d'être utile aux élèves de votre classe à Mbujimayi en RDC. Je sais que l'école, c'est compliqué dans cette partie du Congo. Alors, on vous envoie tous nos encouragements et puis toutes nos bonnes ondes aussi. Fatimata, lycéenne de 17 ans au Mali, à propos de la leçon d'hier de Gervais Lohembe, c'était sur la chromatographie, la décomposition des couleurs qu'elle connaît bien. On en fait toujours en classe, nous dit Fatimata. On l'utilise pour séparer les différents pigments compris dans une solution de chlorophylle brute. Et à la fin de l'expérience, on a 4 pigments, la chlorophylle A, la B, le xanthophylle et le carotène. Eh ben merci pour tous ces compléments d'information, Fatimata. Un message d'Alioune aussi au Sénégal sur Twitter. Vous avez effectué un gros travail avec les enfants pendant ce confinement. Chapeau, sans oublier les chroniques du coach Didier Akouété. Allez, on lui fait un petit coucou de là où il est. J'en profite pour vous dire aussi qu'à partir de la semaine prochaine, ce seront les rediffusions de l'école à la radio pendant 3 semaines. Mais comme l'enseignement et l'apprentissage sont basés, vous le savez, sur la répétition, eh bien j'espère que vous aurez du plaisir à refaire certains exercices, ou vos enfants, ou même à comprendre des explications qui ont peut-être été trop rapides la première fois. Et puis merci aussi à Mandy, notre 3000e abonné sur Instagram. Allez faire un petit tour sur le compte 7 milliards RFI, beaucoup beaucoup de réalisations d'enfants.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
C'est parti avec vous, Catherine Fournier, les lettres qui se ressemblent et qui embêtent les enfants qui apprennent à lire et à écrire.
Oui, toutes ces lettres qui se confondent ou même ne s'entendent pas parfois, donc qui posent problème.
Alors on va peut-être rappeler déjà qu'il y a vraiment 3 notions à bien comprendre pour une lettre.
Oui, ce qu'on peut appeler les 3 pieds d'une lettre. Donc la lettre, elle a un nom. A, B, C, etc.
Oui.
Elle fait un son, donc parfois même plusieurs. Par exemple, la lettre O, c'est le son O. Mais si on l'associe à une autre lettre, comme le U, bah, elle va faire O. Et la lettre se trace. En France, on commence à écrire en lettre bâton hein, chez les tout-petits. Puis ensuite, on apprend à écrire en cursive. Et en même temps, on apprend la correspondance avec l'écriture script. C'est pas le cas dans tous les pays. Certains ont abandonné la cursive.
Ouais, donc en fait, il y a 3 alphabets finalement, pratiquement.
Oui, c'est ça. Pour un enfant, c'est très compliqué. Il faut mémoriser 3 tracés différents pour une même lettre. Donc il faut retenir un nom, un son, ou des sons et des tracés.
Ouais.
C'est une lettre.
Ouais. Et ben, c'est déjà compliqué, on a à peine commencé. Alors on va revenir à ces 2 lettres dont nous parlait Lafleur à Brazzaville. Les lettres M et N, c'est quoi les problèmes de confusion?
Alors, pour la fleur, on ne sait pas, ça peut être auditif ou visuel, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, les 2 lettres, en tous les cas, elles nous viennent de loin, de l'alphabet des Phéniciens. Le M s'appelait Mem et le N s'appelait Noun. Donc déjà, on entend hein, Mem et Noun.
Eh ben oui, on les entendait de manière très distincte, contrairement à notre alphabet latin. Enfin, M, N, ça peut se confondre hein,
oui,
à l'oreille.
Oui, oui. Alors, pour aider à reconnaître ces 2 lettres, on va essayer de les imager. Donc, on va se faire le portrait du M et du N. Alors, le M marche, il a une moustache et habite à la montagne. Le N nage, il a un gros nez et possède un grand navire. Donc, il faut essayer de bien voir l'image de leur portrait dans notre tête et préparer crayon et feuille pour dessiner le portrait du M et du N.
Oui.
Alors, on va essayer de commencer par dessiner le portrait du M. On va lui faire une grosse tête ronde. Donc, les enfants peuvent dessiner sur leur feuille un grand rond. On va ajouter 2 yeux. On va faire 2 petits ronds. Un nez, un petit trait vertical. On va faire ça.
Et la moustache, alors, comment on la dessine?
Alors, la moustache, il nous faut faire une belle grosse moustache en forme de vague qui peut rappeler la lettre M.
Ah oui, d'accord. Hein, donc, c'est une moustache vraiment assez sophistiquée, si elle a un peu
la
forme d'un M.
Moustache à l'ancienne, hein, ouais. On pourrait même dire en guidon de vélo. Vous voyez.
C'est ça.
Et on peut après, dans le dessin, hein, si les enfants veulent le compléter, ajouter 2 longs traits pour les jambes, puisque la lettre M marche, et dessiner derrière lui sa montagne avec 2 sommets pointus. Donc la moustache et la montagne, un petit moyen mnémotechnique, c'est que ça ressemble au M en lettres majuscules.
Oui.
Alors maintenant, on peut faire le portrait du N. Donc si on a une 2e feuille, au milieu, on va dessiner, pareil, la grosse tête ronde avec 2 yeux Et pour le nez, on va dessiner un gros pont.
Il a un gros nez. Ah oui, le gros nez, ça va être finalement un peu la forme du N, c'est ça ?
C'est ça, exactement, hein, le pont du N. Donc ça sera son gros nez.
Oui, mais le N, le N pas en majuscule.
Le N pas en bâton, voilà, pas en majuscule. Le N en script. Ça va être le nez de Monsieur N. Et puis après, on peut lui ajouter la mer, puisqu'on a dit que le N nage avec son navire, hein, pour se souvenir de cette différence entre M et N.
Alors, on a donc Monsieur M avec sa grosse moustache en forme de M et Monsieur N avec son gros nez en forme de N.
Voilà. Alors, on va essayer de retenir ces mots repères, hein, la moustache et le gros nez de l'un et de l'autre, et on peut s'entraîner à prononcer, hein, le son du M et du N. Si on s'observe dans un miroir, hein, ou regardez votre voisin, on voit que le M se prononce avec les lèvres. Tandis que si on dit on voit que la langue se place derrière les dents. Donc, ça peut être aussi deux moyens de bien reconnaître le M et le N, être attentif à sa prononciation, au mouvement de sa bouche. Alors, on peut s'entraîner maintenant, hein, à reconnaître le son N et le son M.
Vous allez nous donner une liste de mots, Catherine, et puis on va s'entraîner à bien repérer la lettre N et la lettre M, mais en termes de son, donc M et N.
Voilà, en termes de son. Donc, on dit les mots, quand on entend le son M, on met une croix sous le portrait de Monsieur M, et si on entend le son N, on met une croix sous le portrait de Monsieur N. Alors, premier mot, navire.
Navire, donc on prononce bien avec les dents.
Exact. Donc, c'est la famille de Monsieur N. Marcher.
On prononce marcher avec les lèvres qui se serrent.
Donc, Monsieur M. Nez.
Nez, on a vu qu'un certain monsieur avait un gros nez que l'on prononce avec les dents. Il s'agit bien de la lettre N.
N. Oui. Moustache.
Moustache. Et on reconnaît le fameux monsieur M qui a sa grande moustache.
Voilà. Montagne.
Montagne. C'est la même chose.
C'est la même chose, c'est la lettre M. Chenal.
Ah, alors la lettre est au milieu, chenal, oui. Et j'ai bien mis ma langue entre les dents pour prononcer le N.
Là, c'est plus difficile, donc c'est Monsieur N, chenal. Et pour finir, chemin.
Et là, je ferme mes lèvres pour prononcer « chemin » avec la lettre « M » au milieu.
Voilà, c'est sur Monsieur M. Donc, on s'entraîne bien. Hein, c'est des entraînements qu'on peut continuer avec une belle articulation pour identifier « m » et « ne ». Alors, on peut continuer avec le petit jeu de l'intrus. Donc, une liste de mots et il faut trouver l'intrus.
Alors, les enfants, il faut être bien attentif, hein, parce que Catherine va lire une liste de mots. Et il y aura un mot qui n'a rien à voir avec les autres, c'est ça, en termes de lettres ?
Exactement, de son et de lettres. Hein, donc l'intrus, celui qui ne sera pas dans la même mouvance que les autres.
Ouais.
Alors attention à la liste. Montagne, manteau, tomate, dinosaure, fourmi.
Alors, je vais les redonner. Montagne, manteau, tomate, dinosaure, fourmi. Moi, j'ai senti mes lèvres se fermer sur la plupart des mots qui comportait un M, montagne, manteau, tomate, fourmi. Et j'ai l'impression, Catherine, qu'il y a un mot où je ne ferme pas mes lèvres. Dinosaure.
Voilà, c'est notre intrus qui n'a pas le son M, mais la lettre N et le son N. Alors, on peut faire une deuxième petite série.
Et je ne vous aide pas cette fois-ci. Allez.
D'accord. Alors, premier mot. Cadenas.
Cadenas.
Maison.
Maison.
Lune.
Lune.
Renard.
Renard.
Et farine.
Farine. Cadenas. Maison. Lune. Renard. Farine.
Alors, quel est notre intrus? Si on a bien regardé son voisin prononcer ou si on a été attentif à ce qu'on a entendu, l'intrus est maison, car il ne contient pas le son N et la lettre N.
Catherine, peut-être que maintenant on va essayer de voir avec les enfants la différence pour tracer la lettre M et la lettre N.
Oui, qui peut être l'autre source de confusion. Là, on a vu les confusions auditives, mais elles peuvent être visuelles, puisque les deux lettres se ressemblent et appartiennent aux lettres que l'on trace en faisant un tracé qui monte comme une vague. Donc, ce sont deux lettres avec O. Alors, on va essayer de s'entraîner dans l'air.
Alors là, on parle de l'écriture cursive ou script?
On va essayer de s'entraîner en cursive pour avoir le geste qui court et qui s'enchaîne.
Les lettres que l'on utilise dans les cahiers des écoliers à l'école primaire, en principe, oui.
Oui, en principe. Alors, on va mettre son bras, on va le faire ensemble. On lève le bras, on joint les doigts pour tracer le N. Alors, il faut aller assez vite si on veut prendre cette habitude de délier son geste.
Donc, les enfants, vous imaginez bien que vous tracez, non pas sur l'ardoise ou sur la feuille de papier, mais dans l'air, la lettre va être beaucoup plus grosse, bien sûr.
Voilà, il ne faut pas hésiter à faire de grands gestes pour faire de grandes lettres. Donc, pour tracer le N, on va d'abord faire comme une canne. Donc, on met son bras tendu, on part d'en bas, on monte un tout petit peu, comme une vague, on tourne à droite. On descend, on remonte sur la canne, on tourne à droite, on redescend. Et si on veut accrocher le N à une autre lettre, par exemple le M, pour continuer son geste...
Il faut donc remonter.
Voilà.
Pour l'accrocher.
Exactement. On remonte, comme si on surfait une vague. On retourne à droite, on redescend, on remonte sur la canne, on tourne à droite, on redescend, on remonte sur la canne... Droite,
c'est bien, parce qu'on a un peu l'impression de conduire une voiture, une moto, quand on dessine vos lettres, Catherine, moi j'aime bien.
Voilà, exactement. Et plus on va le faire dans l'air, avec de grands gestes, mieux on va travailler sa motricité fine, finalement.
Ouais.
Donc, il ne faut pas hésiter à faire les lettres dans l'air.
Et rapidement.
Et rapidement, voilà, parce que c'est une course, la cursive. Ça s'enchaîne.
Alors, les parents, vous allez entraîner vos enfants à faire la même chose avec la lettre M. C'est pas très radiophonique, évidemment, mais vous avez compris le principe. Ensuite, que faut-il expliquer, Catherine Fournier?
On peut continuer l'entraînement déjà dans de la farine ou du sable. Et puis ensuite, il faut bien observer les lettres et voir qu'en script, le N a un pont. C'est le gros nez. Et le M a deux ponts. Vu la moustache.
Exactement.
Si on passe en écriture cursive, qui est souvent l'écriture, en tous les cas, qui perdure en France, même si elle a été abandonnée dans d'autres pays anglo-saxons, il faut continuer et ajouter un pont à chacun. Donc le N a deux ponts, car il y a la remontée de la vague qu'on vient de voir, et le M, trois ponts. Donc ce qui fait que certains enfants, et c'est peut-être le cas de la sœur, confondent le N en cursive, deux ponts, avec le M en script, deux ponts aussi.
Catherine Fournier, on va voir d'autres lettres qui posent problème aux enfants parce qu'elles ont des sons voisins. C'est le cas de la lettre F et de la lettre V. Alors quand je dis F et V, on ne voit pas trop où est le problème. Mais quand on prononce F ou V, ça devient plus compliqué, surtout à l'intérieur d'un mot.
Oui, parce que c'est deux lettres qui se prononcent avec les lèvres. Hein. Avec le F, on expire, avec le V, ça vibre un peu. Donc là aussi, il faut sentir le son sur sa gorge. Hein. Alors un petit moyen mnémotechnique aussi, c'est la fusée va décoller, elle souffle. Et elle fait du vent.
Je vais le refaire au micro, hein, parce qu'avec le téléphone, c'est moins pratique pour vous, Catherine. Oui. La fusée va décoller, elle souffle, ça fait donc... Et elle fait du vent, ça fait... Ça ressemble plus à un moteur d'ailleurs, un vombrissement.
Voilà, exactement. Donc ça vibre. D'ailleurs, si on pose la main sur la gorge, on le sent bien. Hein. Et du coup, ça peut entraîner des confusions auditives. Hein. Par exemple, si je dis, pour retourner chez moi, je fais vite. Pour retourner chez moi, je vais vite. Donc c'est... Auditivement, c'est très proche, surtout quand on parle vite. Donc, il y a aussi, donc on a vu le P et le B qui ont été vus, là aussi des lettres qui se prononcent avec les lèvres. Alors, pour ne pas confondre, P, on expulse l'air, hein, P, donc comme dans papa, c'est le P. Donc, ça nous amène à faire attention, il y a des mots qui sont proches, la pierre et la bière, le pont et le bon, le pain et le bain.
Ouais, il faut vraiment travailler sur la prononciation des mots avec les enfants, effectivement. Le T et le D, deux lettres aussi dont les sons se prononcent avec les dents.
Oui, deux dentales. Donc là aussi, ça complique hein, pour la prononciation. Donc on regarde où on met sa langue. T, on est derrière. Hein, T, on est aussi derrière. Donc c'est vraiment des différences qui sont minimes. Et si les parents veulent aider les enfants, il faut vraiment travailler cette phonologie, cette articulation pour éviter ces confusions finalement qui sont plus auditives hein, pour les lettres.
Un message de Habib qui est à Ngaoundéré au Cameroun. Il nous dit « Bon, merci pour la leçon du jour sur les lettres. Moi, je confonds souvent la lettre U et I. » Alors, c'est vrai que pour nous, Catherine, qui sommes de langue maternelle française, le U et le I, a priori, ça ne pose pas de difficultés particulières. On n'a pas tellement tendance à les confondre.
Non, d'un point de vue auditif, nous, on ne les confond pas, U et I, parce que déjà, pour l'articulation, c'est très différent. Par contre, il y a des confusions visuelles, parce que là, c'est les ponts, mais à l'envers, hein, sont les cannes, deux. Pour le U, une, pour le I. Oui. Mais c'est souvent dû, finalement, à la langue maternelle. Hein, le passage d'une langue à l'autre, hein, puisque bon, sur le continent africain, le français n'est pas la langue maternelle. Le passage d'une langue à l'autre provoque des confusions, notamment sur certaines voyelles et consonnes. Oui. Il y a eu des études, de fait, hein, notamment avec la langue de Côte d'Ivoire.
Catherine Fournier... Vous aviez prévu de nous parler aussi des lettres muettes, mais on ne va pas avoir le temps. Mais il y a souvent des questions qui reviennent sur les fameux haricots. Pourquoi dit-on le haricot, les Hollandais et les hélices d'un hélicoptère, alors que tous ces mots commencent bien par un H, ce qu'on appelle des lettres muettes. Il nous reste quelques secondes pour nous répondre. Catherine, je sais que c'est un peu dur pour vous comme défi.
Alors, on va essayer de faire vite. Hein. Le H en français, il est très compliqué puisque finalement, on ne le prononce pas. Donc, on pourrait se dire qu'il sert à rien. Mais il est là pour marquer l'origine du mot. Est-ce qu'il est d'une origine latine ou d'une origine germanique? Donc, quand il est latin, souvent le H, il est muet. Donc, on l'entend pas. L'article était l'idée et on peut faire la liaison, d'où les hélices, les herbes aussi, hein, les autels. Mais quand il est aspiré, eh ben, on ne doit pas le faire. Et là, il n'y a pas de moyen.
Il faut le connaître par cœur. Voilà, ne dites pas les haricots sont bons à la cantine. Non, il s'agit bien des haricots. Merci beaucoup, voilà. Catherine Fournier. À retenir donc les trois pieds d'une lettre, un nom, un son et des tracés. Et dans quelques instants, on va avoir maintenant une histoire racontée par Héloïse Auria qui prononce si bien justement toutes les lettres. Très bonne journée à vous, Catherine.
Merci beaucoup, vous aussi.
Enfin. Et tout de suite, un mauvais garçon comme on les aime chez 7 milliards de voisins pour se défouler un peu. Annie El Khatib, peace. We are crazy. êtes bien sur RFI et vous avez raison, l'école à la radio, 7 milliards de voisins et nous sommes au service des plus jeunes. Tout de suite, une histoire racontée par Héloïse Aurea, le roi qui n'aimait pas les vieux.
Je vais faire une histoire. Je vais inventer une histoire.
Il était une fois...
Le roi qui n'aimait pas les vieux. Un conte de Jean-Jacques F. Dida. Ça s'est passé à l'âge où les pierres étaient encore tendres, où la mer des fleuves était encore goutte d'eau, où la première pousse d'arbre était encore à graines. L'âge où les aïeux de nos aïeux n'avaient encore rien vu. Un prince, héritier du royaume de son père, prétendait se débarrasser de la tyrannie des vieillards. Réunissant ses courtisans, il leur a commandé de trucider sans retard aînés, pères, grands-pères et autres ancêtres, afin qu'il n'y ait plus alentour une seule longue barbe pour leur faire remontrance, ou leur dire de faire ceci comme cela, ou cela comme ceci. Sans pitié, chacun s'est débarrassé des siens. Et désormais, les jeunes conseillers et le nouveau roi passaient leur temps à se réjouir sans limite et sans frein. Un seul d'entre eux, respectueux de son père, avait décidé de l'épargner et le cachait dans une grotte à l'écart du village. Chaque jour, il lui portait à manger et tous deux s'attristaient de cette cour où chacun ne pensait qu'à se divertir. L'araignée file sa toile et la proie y marche pas à pas. Ce qui devait arriver, arriva. Un chef ennemi a réuni soudain ses troupes aux frontières du royaume et a envoyé un ambassadeur cherchant prétexte pour piller le pays.
Sachez, ô roi et conseiller vertueux, que mon maître possède un cheval alezan, ne s'abreuvant que du lait des vaches blanches du Sahel. Il désirerait que vos artisans les plus industrieux lui livrent, sous 3 jours, une entrave tressée avec des grains de sable fin, pour remplacer l'ancienne. Sans réponse de votre part, demain, ici, à l'heure de midi, nous serons dans le regret de devoir faire déferler notre immense armée à travers votre belle contrée. Salut à vous et sur vous, le salut!
Le roi et ses conseillers dégrisés sont restés là, pantois, ne sachant ni quoi faire, ni que penser. Alors, en grand secret, le garçon qui avait épargné son père est allé lui rapporter toute l'affaire. Le vieillard a réfléchi, souri, et lui a expliqué comment se sortir de ce mauvais pas. Le lendemain, au conseil, sans même y être invité, le garçon a interpellé l'ambassadeur.
« Dites à votre seigneur que nous savons effectivement l'art subtil de tresser les entraves de sable fin. Nous en avons d'ailleurs de nombreux modèles. Aussi, voudriez-vous bien nous porter l'ancienne, afin que nous puissions en faire rigoureuse copie ?»
L'ambassadeur est reparti, la mine allongée. Et rois et courtisans ont fêté le garçon pour sa sagacité. Hélas, la semaine n'était pas terminée que l'ambassadeur se représentait.
Mon maître, voyant à quels habiles gens il a affaire, voudrait que vous lui bâtissiez à présent un palais flottant entre ciel et terre, afin que nos soldats puissent s'y prélasser. Sans réponse de votre part, demain, ici, à l'heure de midi, nous serons dans le regret de devoir faire déferler notre immense armée à travers votre belle contrée. Salut à vous, et sur vous, le salut.
Le roi et ses conseillers se sont aussitôt tournés vers celui qui la première fois les avait sauvés. Prétextant le besoin d'une nuit pour y réfléchir, le garçon a couru voir son père.
Dès le lendemain, au conseil, il tenait ce discours. « Dites à votre Seigneur que nous excellons, il est vrai, dans la mise en œuvre des architectures éthérées. Aussi, afin de répondre au plus juste à sa requête, nous aurions besoin des plans du palais, dessinés, comme il se doit, entre le ciel et la terre. » À l'écoute de cette nouvelle pirouette, l'ambassadeur est reparti déconfit, mais s'en est revenu plus rapidement encore.
« Mon maître pense que vous vous jouez de lui. Par conséquent, si vous êtes si malin, venez ici demain matin sans être vêtu, ni dénudé, ni à l'ombre, ni au soleil, et ne vous déplaçant ni à pied, ni sur monture. Autrement, nous déferlerons sur ce pays de sceaux. »
Cette fois, le garçon lui-même se demandait comment son père allait pouvoir les sortir d'affaires. Mais le vieil homme s'est joué de toutes ses difficultés. Le lendemain, le roi, le garçon et les conseillers sont arrivés au palais couverts de filets de pêche qui les drapaient sans les vêtir et les protégeaient du soleil sans les ombrager. Juchés sur de petits anons, leurs jambes touchant terre, ils allaient ni à pied, ni sur monture. Quand l'ambassadeur a décrit ce tableau à son maître, le guerrier a préféré fuir avec son armée plutôt que livrer combat à des gens si rusés et si bien avisés. Le roi, lui, ne tarissait pas d'éloges pour le garçon et voulait le nommer à l'instant premier conseiller. Mais devant tant de succès, le garçon a préféré avouer comment il avait épargné son père, à qui finalement tous devaient d'être sauvés. Figure basse, le roi et ses conseillers sont allés voir le vieillard qui n'a pas hésité à les injurier. En témoignage de leur regret véritable, les jeunes gens ont alors décidé de transmettre le trône au garçon et s'en aller méditer quelques années dans la forêt. Le nouveau roi est devenu un grand chef, dit-on, soutenu comme il se doit par son père et un conseil de sages. Nul ne peut voir seul le sommet de son crâne. Qui n'est pas guidé, vaut moins encore qu'un âne.
À la mise en onde, Romain Dubrac, avec la voix d'Héloïse Aurea. Et bien sûr, toutes ces histoires, 55 contes au total, sont à retrouver en podcast. Vous les téléchargez, ensuite plus besoin de connexion Internet pour vous régaler le soir avec vos enfants, en famille. Vous tapez 7 milliards de voisins, des contes à écouter. Et tout de suite, les petits-enfants des indépendances, c'est notre série d'été signée Charlie Dupiot. Les indépendances de 8 pays africains, dont on fête le 60e anniversaire au mois d'août, nous sont racontées par des lycéens, des lycéennes, à une exception près. Aujourd'hui, c'est Joshua, 18 ans, étudiant en mathématiques à Pointe-Noire, au Congo-Brazza, qui nous raconte cette histoire pour laquelle il se passionne. Le Congo devient indépendant le 15 août 1960 et l'abbé Fulbert Youlou est le premier président de la Jeune République. Le reste, Joshua va nous le raconter tout de suite.
C'est pour nous un jour d'allégresse. Notre peuple aura gagné le droit de disposer de lui-même.
Il y a tellement d'émotions qui montrent moi en ce moment.
Le droit de choisir lui-même sa propre voie.
Les petits enfants des indépendances, c'est nous.
C'est nous.
C'est nous. C'est nous.
Le jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur.
Il est minuit.
Nous sommes les petits enfants des indépendances.
Mais j'ai décidé de me replonger dans l'histoire de ce jour mémorable.
L'histoire de l'indépendance de mon pays, je l'ai apprise à l'école et chez ma grand-mère.
Pour en apprendre davantage, j'ai dû faire un flashback de 60 ans.
Voici donc l'une des plus grandes heures qu'ait connue votre histoire. L'ère coloniale est désormais révolue.
Bonjour, je m'appelle Joshua. Je suis originaire du Congo-Brazzaville. Je n'ai pas eu à attendre d'aller à l'école pour connaître exactement le jour de l'indépendance de mon pays. Cette date est si marquante que chaque année, une fête est organisée pour nous remémorer cet instant de liesse et de joie qui a immanquablement changé la vie des Congolais de l'époque et la nôtre. Plus tard, en grandissant, notamment au CM2, j'en ai appris un peu plus sur cet événement. C'est pourquoi, cette année, en l'honneur du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, comme beaucoup d'autres pays africains, le Congo a obtenu son indépendance en l'année 1960, le 15 août. Pour moi, ce n'est pas un souvenir, ce n'est qu'une date, tout simplement parce que je ne suis pas assez âgé pour avoir vécu cet événement. Ma petite enquête historique m'a tout d'abord amené au début du XXe siècle, dans les années 20. Le Congo s'appelait alors Moyen Congo. Il faisait partie d'un ensemble de colonies françaises, l'AEF,
l'Afrique équatoriale française.
Et c'est à cette époque que commencent à naître les premières velléités de résistance et d'indépendance dans le cœur des Congolais. Cela a été surtout dû aux mauvaises conditions de travail auxquelles ils devaient faire face, dans les compagnies concessionnaires notamment. Et cela s'est illustré au cours de la construction du chemin de fer Congo-Océan, CFCO en sigle, qui a coûté la vie à plus de 10 000 Congolais.
En route pour Pointe-Noire. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un sou. Un chemin de fer, nous y voilà. Pour éviter les rapides, les colonisateurs belges construisirent le leur de 1889 à 1898, les Français de 1921 à 1934.
C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo-Océan est réalisée après 13 années de travaux. Commencée en 1921, il a fallu, pour exécuter les 610 km de la ligne, vaincre les difficultés d'une région malsaine et accidentée, lancer 92 ponts et faire 10 millions de mètres cubes de terrassement. 930 millions ont été dépensés pour cette œuvre qui a permis de relier le bassin du Congo directement avec la mer. C'est non seulement un grand progrès dans la mise en valeur des colonies françaises, mais aussi une amélioration du sort des populations indigènes de l'Afrique équatoriale.
La recherche de meilleures conditions de travail fait progresser rapidement le nationalisme dans le pays. Parmi les leaders de ce mouvement figure en bonne place André Matsoua. Ce dernier fonde en 1926 une amicale pour défendre les droits des anciens tirailleurs. Mais très vite, cette amicale se transforme en un mouvement de protestation. Cela entraîne de vives inquiétudes au sein de l'administration coloniale. Ils font donc incarcérer Matsoua et d'autres amicalistes. Ces arrestations provoquent des contestations et des mouvements de grève importants qui paralysent Brazzaville. Cela entraîne ainsi d'autres arrestations. Matsoua, alors incarcéré, s'évade plusieurs fois et finit par mourir dans la prison de Mayama en 1942. Après la mort de Matsoua, le nationalisme congolais prend réellement corps après la Seconde Guerre mondiale. Notamment le 21 octobre 1945, les Congolais élisent leur premier député, Jean-Félix Tshikaya. Ils fondent en 1946 le PPC, le Parti progressiste congolais. Lors des élections législatives de 1956, ce dernier connaît une défaite face à son opposant principal, Fulbert Yolou, alors fondateur de l'Union démocratique de défense des intérêts africains. En 1958, le référendum sur la communauté française est organisé. Cela fait suite à la conférence de Brazzaville qui fut organisée le 30 janvier 1944 en la présence du général de Gaulle qui avait pour but de décider du futur des colonies françaises. Lors de ce référendum, les Congolais votent massivement pour le oui. Suite à cette décision, le 28 novembre 1958, le Congo devient une république autonome avec pour premier ministre Fulbert Yulu. En début de l'année 1959, de violentes émeutes éclatent entre les partisans de Fulbert Yulu et ceux de Félix Tshikaya. Cela entraîne à l'intervention de l'armée française et puis finalement, Fulbert Yulu est élu comme le premier président de la République autonome du Congo. Mais toutefois, l'indépendance n'est pas encore arrivée. Arrive enfin l'année 1960. Cette année s'ouvre comme une année d'espoir pour les Congolais. Et un peu plus tard dans l'année, d'autres pays encore parviennent à obtenir l'indépendance, comme la RDC et d'autres pays plus lointains comme Madagascar. Enfin, les espoirs des Congolais sont récompensés le 15 août 1960. À minuit heure locale, le président Fulbert Yulu proclame officiellement l'indépendance de la République du Congo.
Cette indépendance de la République du Congo, mes chers concitoyens, je la proclame solennellement et universellement. Nous sommes ici tous associés en cette heure historique à la réalisation du vœu unanime du désir le plus cher de tout notre peuple. Vous allez manifester à juste titre votre allégresse, car il est bien vrai que nous vivons un jour faste et ce 15 août 1960 doit être consacré à la joie.
Alors c'est la fête dans tout le pays. Tout le monde est dans la joie. Même les enfants qui ne comprennent pas ce que ça signifie sont joyeux et ils sentent que quelque chose a changé dans l'atmosphère. Tous les artistes s'emparent du sujet, que ce soit les peintres, les poètes, les musiciens, et attendent ce que cela va apporter à leur pays. Pour les Congolais, c'est l'ouverture d'une nouvelle ère de prospérité et de développement. Le Congo a fini par devenir un pays indépendant de la France. Cela a vraiment été pour moi une expérience intéressante et unique de me replonger dans cette histoire. Pour ce qui est des chansons, il y en a eu bien sûr. Maintenant, celle qui sortait vraiment du lot, c'est surtout la chanson « Indépendance Tcha-Tcha » que même moi, quand j'étais plus jeune, j'entendais encore passer à la radio et presque tout le monde la connaît ici.
Indépendance Tcha-Tcha,
cette chanson avait été faite par le groupe African Jazz et Joseph Kabazele, aussi appelé Grand Calais. Elles avaient fait cette chanson en l'honneur de l'indépendance de la RDC. Mais ensuite, quand nous aussi on a obtenu l'indépendance, c'est cette chanson-là que les gens ont repris, qu'ils écoutaient souvent. Ressenti par rapport à ce que j'ai appris est assez mitigé. Quand j'ai eu à regarder dans le passé, j'ai été vraiment heureux de voir que les Congolais ont enfin pu obtenir l'indépendance parce que les conditions dans lesquelles ils vivaient étaient insupportables. Aucun humain ne devrait passer par de tels événements et vraiment la colonisation est un crime contre l'humanité. Du fait des souffrances terribles que les Congolais devront endurer. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'ai... Bon, disons touché, hein, c'est l'histoire sur la construction du chemin de fer Congo-Océan. Vous imaginez, ils étaient obligés de creuser un tunnel avec des outils manuels. Et au final, ça a coûté la mort. Les estimations, ils ont dit 17 000 à 20 000 Congolais. Donc, c'était vraiment un massacre. Et... très heureux d'apprendre qu'on ait pu obtenir l'indépendance
Et c'est grâce à ça que moi aujourd'hui je me trouve pas peut-être dans la même situation qu'eux. Parfois on a l'impression que nous ne sommes même pas indépendants. En fait, le pays est en train de sombrer dans une dépendance à une seule ressource, le pétrole. Maintenant, 60 ans après l'indépendance, on pourrait se demander, y a-t-il eu du changement ? Évidemment. Mais reste-t-il encore des choses à faire ? Énormément.
Joshua, petit enfant des indépendances, étudiant de 18 ans à Pointe-Noire, la République du Congo qui fêtera ses 60 ans d'indépendance le 15 août prochain. Et bien sûr, ça se passera sur RFI. Une série signée Charlie Dupio. Demain, dernier numéro des petits enfants des indépendances avec Raphaël, lycéen à Libreville, qui nous racontera l'indépendance de son pays, le Gabon. Et puis j'ai le temps de vous lire aussi un message de Viviane qui est à Lubumbashi, éducatrice à l'école maternelle. Cette émission aujourd'hui m'a beaucoup aidée, surtout la leçon sur les différents sons et les confusions entre les lettres. Salut en tout cas à tous les voisins qui sont en RDC, qui nous écoutent aussi. Et puis on se retrouve demain pour parler de l'accord du participe passé avec Laurence Girard, enseignante. Elle a inventé spécialement pour l'école à la radio un moyen infaillible et simple pour savoir si on accorde ou pas le participe passé. Eh bien on fera appel à un perroquet. Oui, c'est ça, c'est vrai. Allez, à demain. Merci à vous tous de votre fidélité.